Pour faire une petite révision, on pourrait peut-être citer le verset qu'il fallait apprendre le mois dernier. Matthieu 28, 18 à 20, est-ce que quelqu'un le connaît ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Et enseignez-leur. Jusqu'à la fin du monde. Très bien, super, merci. Et celui de ce mois-ci. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je triche un petit peu, mais... Un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la grâce, de l'intelligence, pardon, afin que vous discerniez la volonté, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, je reviendrai brièvement là sur ces lectures journalières. Comment vous trouvez-vous ces lectures ? Moi, personnellement, j'apprécie. Je trouve que deux passages par jour, c'est abordable, ça se lit assez facilement. Et puis, les 25 lectures, ça nous permet aussi, des fois, quand il y a des jours qui sautent, comme le dimanche, par exemple, où est-ce que je me lève un peu plus tard, et du coup, je ne lis pas le matin, parce que moi, je lis le matin. Du coup, ça me permet de sauter ces jours-là, et du coup, de rattraper. Et les 25, du coup, ça rentre complètement. Voilà. Je dirais même que des fois, pour vous avouer, j'ai même débordé, parce que du coup, j'étais pris dans la lecture, et du coup, je me suis dit, surtout dans la Genèse et tout, là, quand il y a l'histoire d'Abraham, Isaac, tout ça et tout, si on est un peu pris dans la lecture, on a envie de savoir la suite. Et donc, du coup, j'ai un peu, des fois, triché. Mais j'apprécie particulièrement la régularité que ça donne. C'est-à-dire que ça permet d'avoir tous les jours la parole de Dieu à l'esprit et d'avoir ainsi des saines paroles. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet aussi de prendre un défi journalier, par exemple. Je ne sais pas, moi je parle de l'amour ou bien s'entendre avec quelqu'un ou essayer de bien s'entendre avec mes collègues, ceci, cela, ou en famille, par exemple. Et ça me permet d'essayer de développer un truc dans la journée particulièrement. Et en plus, bien sûr, forcément, le fait d'avoir des paroles comme ça tous les jours qu'on lit, ça nourrit des chants. Et donc, on part aussi au travail avec des chants à l'esprit, et puis on chante sur la route, on chante sur la moto, on chante en voiture. Et c'est pas mal. Donc, j'aime assez cette formule, même si on complète avec d'autres choses. Et je suis convaincu que même si ça m'arrive de ne pas souvenir ce que j'ai lu le matin même, parce que ça m'arrive, des fois, je lis... Puis du soir ou dans la journée, je me dis, qu'est-ce que j'ai lu déjà ? Je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu, parce que bon, je me lève à 6h45, des fois peut-être je suis un peu endormi encore, mais voilà. Mais en fait, je suis convaincu quand même que malgré tout, ça fait son œuvre en moi. Le fait de lire ces paroles, elles me nourrissent, et peut-être que si je ne m'en rappelle pas tout de suite, l'esprit pourra se servir de ces paroles que j'ai lues à un moment donné dans ma journée ou dans ma semaine. Et je suis convaincu que du coup, ça a du bon, et que ça fait son œuvre en moi, parce que c'est quelque chose que je ressens. Je le ressens dans mon cœur. Et puis ça me donne de l'entrain, ça me donne envie de lire, ça me donne envie de faire des choses pour le Seigneur, de témoigner, et ça me donne envie d'aller de l'avant avec le Seigneur. Donc j'aime particulièrement lire la parole de Dieu, et j'aime le fait d'avoir une certaine régularité. Et de toute façon, si on ne s'impose pas cette régularité, eh bien du coup, on constate qu'on ne le fait pas du tout. Donc essayez de vous y mettre aussi si vous ne le faites pas, et vous verrez que petit à petit, c'est un peu comme le sport, quand on commence, c'est difficile, et puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus facile, et après, on en a envie, et après, ça devient de plus en plus facile d'y aller. Voilà. Donc bref, personnellement, personne ne pourra me contredire, mais il est bon de lire la parole de Dieu et de l'avoir à l'esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais vous partager ce verset qui suit. C'est le verset 139, le psaume 139, le verset 13 et 14. Alors, il dit... C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors je suis certain que dans une autre présidence ou dans un autre partage, je vous en ai déjà partagé ce verset parce que c'est un verset que j'aime particulièrement. Mais c'est pas grave, ce sera peut-être une redite, etc. Mais il est toujours bon de toute façon de réentendre pour réapprendre. Donc ce verset, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon père et mon âme le reconnaît bien, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est un verset qui est régulièrement utilisé lors de la naissance d'un enfant. Alors, je pourrais d'ailleurs utiliser ce verset pour vous annoncer l'arrivée de notre troisième enfant. Mais cela mettra sûrement mal à l'aise mon épouse, qui a horreur de que je fasse ce genre de déclaration publique. Alors, je m'excuse, Élodie. Mais comment ne pas partager avec vous cette bonne nouvelle? Et puis, comme je suis devant vous, au moins, vous la prenez tous en même temps. Ça me fait plaisir de vous le partager parce que vous êtes ma famille. Vous êtes nos frères et sœurs, etc. Et donc, on a envie de vivre ça aussi avec vous. Et voilà, je loue le Seigneur, je le remercie pour cette nouvelle. Mais c'est pour nous un sujet de joie et que je tenais à vous partager. Merci au Seigneur. Alors, donc oui, la formation d'un enfant dans le ventre de sa mère, son développement en son sein reste quelque chose d'admirable, d'incroyable. Comment notre corps fait-il pour concevoir un enfant? Nous le savons parce que les scientifiques ont pu expliquer le processus, la manière dont cela se produit. Mais comment peut-on expliquer, si je peux me permettre, la magie qu'il y a derrière cette chose? La beauté de cette création n'est explicable autrement qu'en louant Dieu. Oui, nous sommes des créatures merveilleuses et nous pouvons louer Dieu pour cela, car ses œuvres sont admirables. Nous l'avons chanté ce matin. Dans ma vie, j'ai souvent ce sentiment de reconnaissance envers Dieu. Dieu fait des choses incroyables. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu fait des choses incroyables. Alors, quand je suis fasciné par ce que Dieu fait, j'ai ce verset qui me vient souvent en tête. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Les œuvres de Dieu sont admirables et son timing est parfait. Dernièrement, j'ai eu la chance d'être embauché sur un poste que je convoite depuis longtemps. C'est dans ce genre de situation que je reconnais la main de Dieu. Cela fait plusieurs années que je postule à des postes d'animateur ou de coordinateur nature, sans avoir forcément tous les diplômes. Et je convoite ces jobs parce qu'en fait, je suis désireux de travailler vraiment avec des enfants ou avec un public. Je veux du relationnel dans mon travail. Et puis, j'aurais aimé donner une orientation nature et environnement dans ce travail parce que c'est des domaines qui me motivent particulièrement, que j'apprécie. Et puis jusqu'à ce jour, j'ai toujours eu des réponses négatives, alors que je faisais attention de bien soigner mes lettres de motivation, mes CV, de m'engager dedans, etc. Et puis à chaque fois, c'était quand même un refus. Mince. Dernièrement, moi, je comptais finir ma maison, j'étais en train de travailler dans ma maison, mais j'ai reçu une offre d'emploi de ma conseillère Pôle emploi. Et ma conseillère, elle me suit, elle me connaît bien, etc. Elle sait ce que je cherche, tout ça, etc. Donc, je ne pouvais pas ne pas répondre à cette offre d'emploi parce qu'elle rentrait complètement dans ce que je cherchais. Donc, je n'aurais pas répondu, il m'aurait radié. Il m'aurait dit, non, ce n'est pas possible, là, vous le faites exprès, quoi. Mais pour moi, ce n'était pas le bon moment. Mais donc, j'ai dit, je vais y répondre, mais ça va être une fois de plus une candidature qui va être rejetée. Donc, j'y réponds comme ça. Donc, j'ai pris un ancien CV, une ancienne lettre de motivation. J'ai changé juste les destinataires, modifié 2-3 trucs. Hop, et je les ai envoyés, mais sans trop prendre la tête cette fois-ci. Et puis, j'ai pas de nouvelles, alors je dis tant pis, c'est tout, hein. C'est encore une fois pas pour moi. Et puis je suis en train de travailler sur mon chantier, je suis sur un échafaudage et tout, je reçois un coup de téléphone et là c'est le directeur de la structure qui m'appelle pour me dire qu'il veut me recevoir en entretien. Ah, là à ce moment-là je suis quand même content, je vous avoue que je suis quand même content. Donc je vais aller à cet entretien mais je me dis chauffe-toi pas trop vite parce que ça m'est déjà arrivé d'aller en entretien et du coup de pas être retenu quand même. Donc je vais à cet entretien, on discute, ça se passe vraiment bien, on a un bon échange, il m'emmène sur le jardin, un jardin de 6000 m² de terrain, avec une serre, avec une mare, avec une petite forêt, etc., une maison bioclimatique au milieu, tout ça. Ils font de l'animation pour les enfants, pour les familles, pour les scolaires, il faut en plus embaucher des gens en insertion, essayer de les former, donc leur trouver aussi des formations et puis les aider dans leur reconversion professionnelle, etc. Le top. Personnellement, pour moi, je trouve le top. Donc j'y vais, je suis super content et tout aussi. Je me dis, ça m'étonnerait que je sois retenu, mais voilà. Première mission qu'il me donne du coup le directeur, il me dit, écrivez-moi un projet sur le jardin et renvoyez-le-moi. 3-4 pages. J'écris 15 pages. Quand on aime, forcément, la plume est facile. Hein. Donc je le renvoie et puis là, encore une fois, pas de nouvelles. Tant pis ou tant mieux, je vais pouvoir finir ma maison. Et puis, je travaille sur ma maison, sur des plans. Et là, je reçois un coup de téléphone du directeur qui me dit « Écoutez, y a des choses dont on n'a pas parlé, etc. Le salaire, ceci, cela et tout. En gros, je suis retenu. » Écoutez, super. C'était pas forcément le bon moment pour moi, mais je suis retenu. Le Seigneur en a décidé autrement. Et même si moi, ce n'était pas mes plans, alors que je cherche depuis longtemps et que je pensais qu'avant, c'était le bon moment, et là, ce n'était pas le bon moment, mais Dieu en a décidé autrement. Et pour moi, c'est une véritable aubaine que d'avoir trouvé ce métier, ce boulot. Et c'est dans ça aussi que je vois la main de Dieu. Les œuvres de Dieu sont admirables. Je pourrais vous partager aussi le fait que ça fait 3 ans que nous attendons ce nouvel enfant. Et quand on attend, quand on est dans l'attente comme ça, ça peut paraître des fois long. Mais après, quand on voit Dieu agir, tout ça, etc., et on réfléchit, et on voit la situation dans laquelle on était, tout ça, et on se dit, mais Dieu savait pourquoi il faisait ça. Donc, le timing de Dieu est toujours parfait. Et je veux prendre à témoin aussi autre chose, c'est vos vies, les vôtres. Ta vie, ta présence ici, le fait que Dieu t'ait créé, qu'il ait voulu, qu'il t'ait voulu, ça c'est une œuvre pour moi qui est admirable. Mon désir, c'est que toi, ce matin, tu puisses t'en rendre compte, que tu puisses, toi, le reconnaître et l'accepter, t'accaparer cette réalité. Tu es une œuvre, une création de Dieu, et c'est admirable. Ça me fait rire en pensant à ces personnes qui, à la base, n'étaient pas voulues. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent, qui naissent, mais qu'on n'attendait pas forcément. Et quand je vois le résultat, quand je vois la jeune fille, le jeune homme, la femme ou l'homme que c'est devenu, je me dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et que même si on n'attendait pas certaines choses, eh ben Dieu savait ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que ces personnes ne soient pas là. Vous comprenez ? Donc du coup, oui, Dieu nous a choisis chacun individuellement et ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Donc dans la vie, il y a parfois des choses difficiles qui pourront t'arriver et tu peux te plaindre pour tout un tas de choses. Tu peux en vouloir à Dieu pour telle ou telle situation. Mais comment ou pourquoi se plaindre de vivre ? Lamentations 3, versets 38 à 41 nous dit « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur ? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur tout comme nos mains vers le Dieu qui est au ciel. » Rends-toi compte d'une chose, Dieu t'a fait grâce. C'est une grâce. Dieu t'a créé et si tu n'étais pas là, tu n'aurais même pas l'occasion de te plaindre puisque tu n'existerais même pas. Donc même la plainte, c'est un sujet aussi de reconnaissance parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on est vivant. Donc, on ne peut pas, même si la vie elle est compliquée, on ne peut pas en vouloir à Dieu. C'est qu'il nous a créé et la vie elle est faite comme ça. Il y aura des bons et des mauvais moments. Et ça ne sert à rien des fois de se compliquer les choses. Donc les œuvres de Dieu, elles sont admirables, mais la suite du verset, elle dit « Et mon âme le reconnaît bien ». Les œuvres de Dieu sont admirables, ça c'est une chose qui est indéniable. C'est comme ça, les œuvres de Dieu sont admirables. De toute façon, quand on voit le monde qui nous entoure, quand on voit la beauté de la création, on ne peut qu'être admiratif devant ce que Dieu a créé. D'une certaine manière, je ne me sens pas beau ni rien, etc., mais je suis admiratif de ce que Dieu, comment Dieu m'a créé, de ce que je suis, même si j'ai des défauts, même si je suis, voilà, j'ai un grain de beauté sur mon nez, j'ai des choses, tout ça, etc. Je ne suis pas parfait, je suis un peu petit, machin et tout, mais je suis vraiment reconnaissant, je veux louer Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est vrai que quand on voit le monde, quand on voit nous, ce qu'on est capable de faire, tout ça, etc., c'est quand même magnifique ce que le Seigneur a fait. Et même moi, en tant qu'être humain, des fois les gens, ils ont du mal à croire à la Bible, mais je me dis, mais comment on peut imaginer une histoire telle que celle-ci ? Il y en a eu des romans d'écrits, il y a eu des trucs mais un peu loufoques, etc. Mais écrire une histoire qui soit comme celle-ci, comme le monde, comme la vie, comme ma vie, je ne peux admirer que les œuvres du Seigneur et reconnaître là la main du Seigneur. Donc souvent, quand tout va bien, ben, c'est la chance qui nous sourit. Par contre, quand tout va mal, on a tendance à s'en prendre à Dieu. Hébreux 12, verset 5 nous dit... Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. À l'image de mes enfants que j'éduque, il y a parfois des fois des moments où il faut que je sois un petit peu plus sévère avec mes enfants et du coup, c'est aussi une manière d'aimer mes enfants, de ne pas leur laisser faire tout et n'importe quoi. Ce que je prie le Seigneur, c'est que chaque jour, le Seigneur puisse m'ouvrir les yeux pour que je puisse le voir, pour que je puisse voir, pour que je puisse comprendre et reconnaître ses œuvres. La Bible, elle nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tout concourt à mon bien, je peux placer ma confiance en Dieu même au travers des difficultés. Mais pour ce faire, j'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux, qu'il ouvre mes oreilles et mon entendement afin de pouvoir voir ses œuvres et lui attribuer. Ses œuvres sont admirables, mais moi je dois le reconnaître. Mon âme doit reconnaître que ce sont les œuvres de Dieu et qu'elles sont admirables. Alors je vais appuyer mon argumentaire en reprenant une histoire de deux rois, au chapitre 6, versets 8 à 17. Alors, chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Écoutez bien, parce qu'il y a un coup le roi de Syrie, un coup, voilà. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc le deuxième roi, celui avec qui il est en combat, l'homme de Dieu, il dit donc « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Donc le roi, il prévoit quelque chose, mais le roi d'Israël, Élisée, l'homme de Dieu, à chaque fois lui dit ce qu'il veut faire. Donc du coup, il anticipe ce qu'il va faire. Et le roi d'Israël envoya des gens, voilà. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc je vais récapituler un petit peu, comme ça du coup peut-être vous allez mieux comprendre. Donc dans ce passage on a Élisée, un serviteur de Dieu, du coup qui parle au roi d'Israël et qui lui dit ce qui va se passer parce que les Syriens veulent les attaquer. Et donc le roi de Syrie il est un peu agacé de cette situation et donc du coup il dit bon on va envoyer une troupe là-bas, on va essayer de voir où est-ce qu'il est Élisée, comme ça on va le bloquer et comme ça une fois qu'on aura bloqué cette personne-là, et ben du coup on pourra attaquer le roi d'Israël. Et donc du coup, là, il y a un serviteur, le serviteur d'Élisée, là c'est le serviteur d'Élisée du messager de Dieu, du prophète, il sort un matin de sa tente, et puis qu'est-ce qu'il voit autour de lui, autour de leur tente, de leur campement? Il voit toute une armée qui les assiège. Là, vous imaginez que le serviteur de Dieu, il commence à angoisser. Je l'imagine en haut de la montagne, et il dit à Élisée, mais comment on va faire? On est encerclés, tu vois bien qu'ils sont plus nombreux que nous, on est perdus. On est perdu, on va mourir, c'est bon, c'est la fin pour nous. Alors Élisée, lui, bah, il reste serein. Parce que lui, il ne voit pas les choses comme il voit son serviteur. Et il lui dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et là, encore une fois, j'imagine le serviteur en haut de sa montagne, il se voit avec sa petite troupe de tente, etc. Et là, il regarde et il fait, « Je crois qu'Élisée, il doit porter une paire de lunettes là, parce que je ne vois personne. » Donc, il ne voit pas ce que Élisée est en train de voir. Et Élisée dit alors, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir comme lui voit. Et donc là, les yeux du serviteur d'Élisée s'ouvrent et donc il voit l'armée de Dieu qui est là et qui va combattre auprès d'eux. Et donc, du coup, il est rassuré. Donc, j'imagine l'admiration du serviteur d'Élisée qui, quand il voit l'armée de Dieu prêt à combattre, il doit être soulagé parce qu'il devait commencer à avoir peur. Et là, du coup, il voit ce que Élisée voit et là, du coup, il est rassuré. Est-ce que ça ne t'arrive pas à toi aussi d'être dans cette situation? Tu es face à quelque chose qui se trouve devant toi, que tu n'attendais pas et qui te paraît insurmontable. Tu commences alors à angoisser et tu adoptes l'attitude du serviteur d'Élisée. Entre parenthèses, je suppose que si c'était le serviteur d'Élisée, lui aussi devait croire en Dieu et il devait déjà avoir sûrement vu Dieu à l'œuvre. Mais face à cette situation, il se demande comment il va bien pouvoir s'en sortir. Il a besoin de quelqu'un à côté de lui qui lui dise « Attends, calme-toi, Regarde, Dieu est à l'œuvre. Et toi, tu ne vois encore peut-être pas les choses tout de suite, à l'instant présent, mais si quelqu'un est là et qui peut te permettre de voir aussi et de te dire « Attends, regarde comment Dieu va agir dans ta vie. » Et pour utiliser d'autres textes que nous avons lus aussi grâce au plan de lecture, je dirais qu'on peut utiliser le texte où est-ce que Ismaël et sa mère sont dans le désert après avoir été renvoyés par Abraham. Et donc, on lit le texte dans Genèse 21 au 14, 18. Alors, je vais vous le lire comme ça. Vous verrez bien le passage. Genèse 21, du chapitre du verset 14 à 18. Abraham se leva de bon matin, parce qu'en fait, du coup, Sarah, elle voit sa servante Agar qui a Ismaël, et donc du coup, elle voit qu'elle regarde mal son fils, et Isaac, et donc du coup, elle dit, non mais maintenant c'est bon, il faut renvoyer la servante que je t'ai donnée pour avoir un enfant. Et donc du coup, elle décide de renvoyer sa servante et son fils Ismaël. Et donc Abraham se lève de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant. » Saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Donc, encore une situation qui semble désespérée pour Agar, qui est avec son fils. Et là, c'est un peu hallucinant parce qu'elle est dans le désert, donc il ne doit pas avoir grand-chose autour d'elle. Et donc, je suppose qu'elle a déjà regardé si elle ne pouvait pas trouver de l'eau. Mais dans cette situation désespérée, elle est là et elle pleure et le Seigneur l'entend. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir son salut, qu'elle puisse voir qu'il y a une source d'eau et que du coup, ce n'est pas la fin, qu'ils vont pouvoir se déshydrater et qu'ils vont pouvoir continuer, que Dieu a mis une bénédiction sur son fils. Et il y a plein d'autres passages comme ça, parce que par exemple, quand Abraham doit sacrifier son fils, il dit, il va donc pour sacrifier son fils, et au moment où il va porter le coup de grâce, l'ange il lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc des situations où Dieu nous rend capable de voir ce que nous n'étions pas capables de voir. Dieu apporte la solution, il apporte le salut à ces personnes qui sont dans un moment de découragement, dans un moment de crainte, dans un moment où ils sont à bout. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi combien d'aveugles ils ont recouvré la vue par Jésus. Et ils sont, eux, l'image aussi de Dieu, de ce que Dieu fait dans nos vies quand il vient à notre rencontre. Il nous ouvre les yeux, il enlève les écailles. Il y a ce passage aussi où Paul de Tarse, Saul, du coup, il va être aveuglé par Dieu sur la route. Et du coup, quand Ananias va prier pour lui, il y a des écailles qui vont tomber de ses yeux. Et du coup, c'est le symbole aussi que Dieu nous ouvre les yeux et qu'on est capable de voir. Dieu nous rend capable de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Les disciples aussi, ils ont pu voir plus d'une fois Dieu à l'œuvre, mais cela, malgré tout, même en ayant vu Jésus, ça ne les a pas empêchés des fois d'avoir des doutes et d'avoir des peurs. Là, je vous parle par exemple de la tempête sur le bateau, quand ils sont affolés. Jésus est en train de dormir, ils sont sur le bateau en train de périr parce que c'est la tempête. Et eux, donc, ils vont réveiller Jésus, ils lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ». Et après avoir calmé la tempête, Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» La foi. Qu'est-ce qu'elle peut me manquer ? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Luc 17, verset 6. C'est ce genre de verset qui me font mal à l'estime un peu des fois. C'est ce genre de verset qui me fait me demander, ma foi est-elle si petite ? Est-elle vraiment insuffisante ? Si j'avais la foi comme un grain de moutarde ? Si je pouvais matérialiser ce grain de moutarde ou si je pouvais représenter en pourcentage de ma taille ma foi, Quelle place prendrait-elle sur moi? Imaginez un grain de moutarde, c'est vraiment petit. Moi, j'ai plein de grains de beauté. Si un grain de beauté, c'est un grain de moutarde, est-ce que ma foi, elle ferait cette taille-là sur moi, comparée à mon 1m80, 1m76, là? Combien, si je pouvais le remplir d'une jauge, où est-ce qu'elle en serait ma foi? Et je me rends compte que ma foi, elle est bien petite, parce que même Jésus, il dit, en gros, si vous aviez de la foi comme, mais en fait, ça veut dire qu'on n'a même pas de la foi comme un grain de moutarde. Donc notre foi, elle est vraiment petite. Et ça me désole. Des fois, je me dis, ben, comment faire pour améliorer les choses? Eh bien, du coup, il faut s'approcher du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu, quand Jésus fait des miracles, la réalisation de ce miracle, il apparaît après un acte de foi. Quand les aveugles crient après lui, quand les gens descendent le paralytique du toit, quand la femme qui perdait du sang touche son vêtement, quand le soldat vient chercher Jésus pour guérir son serviteur et qu'il reconnaît que Jésus n'a pas besoin de se rendre à son chevet, parce qu'il peut le faire à distance, Jésus lui dira d'ailleurs, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc cette phrase célèbre, je ne crois ce que je vois que ce que je vois, se transforme alors en il faut le croire pour le voir. Jésus dira d'ailleurs, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si tu commences à faire confiance à Dieu, si tu attends à voir ses œuvres dans ta vie, à voir ses incroyables œuvres, eh bien tu vas reconnaître la main de Dieu dans les choses qui t'arrivent. Et tu verras que les œuvres de Dieu sont admirables. Dieu fait des choses admirables, on l'a dit. Mais toi, est-ce que tu le reconnais? Comment tu te rends compte de la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que, au travers de ce que tu vis, tu arrives à donner à Dieu et à reconnaître à Dieu ces choses qui sont admirables? Sarah, la femme d'Abraham, elle a ri quand on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant parce qu'elle était d'un âge avancé. Et l'ange lui a répondu ça. Il lui a répondu, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Est-ce que vous croyez encore que Dieu n'est pas capable de faire des choses dont vous croyez insoupçonnées à la base? Dieu, il fait des choses extraordinaires, il fait des prodiges à nos yeux. Et Jean nous le partageait dimanche dernier en début de culte. Il nous disait justement que Dieu accomplit ce qu'il promet et qu'il a autorité sur toutes choses. Il est toujours capable de renouveler ses prodiges, même quand notre cœur s'est endurci, quand notre perception, quand nos yeux se sont voilés. Eh bien, Dieu est capable de produire, de renouveler ses prodiges, au point même de faire en sorte qu'on puisse reconnaître ses œuvres quand notre cœur s'est endurci. Job 5, versets 9 à 13 nous dit, c'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. C'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. C'est lui qui a réduit à néant les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les faire réussir. Il prend les sages à leur propre ruse et il devance les intentions des plus astucieux. Est-ce que vous êtes prêt à voir Dieu à l'œuvre? Est-ce que vous êtes prêt à admirer et à reconnaître ses œuvres dans votre vie? Si vous êtes prêt à ça, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est que quand vos yeux vont s'ouvrir, alors vous serez capable à votre tour d'ouvrir les yeux des autres. Acte 26, versets 17 et 18 nous dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Jésus a envoyé ses disciples dans le monde pour guérir les malades, pour chasser les démons, et pourtant, ils n'ont pas toujours réussi. Il y a ce passage de Matthieu 17 qui dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc j'ai plusieurs questions pour vous ce matin. J'aime bien questionner, j'aime bien poser questions. Où en es-tu avec Dieu ? As-tu les yeux bien ouverts ? Vois-tu encore Jésus à l'œuvre ? Et où en es-tu dans ta foi ? Est-ce que vous reconnaissez les œuvres de Dieu comme admirables ? Et est-ce que vous êtes capable justement de reconnaître Dieu dans votre vie au travers des œuvres admirables qu'il fait ? C'est mon encouragement pour vous ce matin. Et je vous propose maintenant de passer un petit temps de prière et après on va prendre un chant qu'on ne maîtrise pas forcément, mais on va prendre un chant et on prendra un autre chant avant d'avoir aussi un autre temps de prière ensemble.